écoutez Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Vous nous avez peut-être écouté depuis le festival Hop 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 à Orléans les 12 et 13 septembre derniers, où les équipes de la Ferrarock étaient présentes pour faire le plein de découvertes et rencontrer les artistes de cette 10e édition, dont la bordelaise Nayamo, qui s'est entretenue avec Julie de Bob FM. C'est la carte blanche de la semaine à retrouver en fin d'émission. I Think My Life Has Been Okay est le premier disque du Quatuor School et la parfaite bande-son d'un teen movie américain des années 90 entre shoegaze, skate et gestes DIY, à découvrir avec Aurélie de Fréquence Mutine en deuxième partie d'émission. Oubliez tout ce que vous connaissez sur l'électro-noise et laissez-vous guider par Camilla Sparks, la musicienne, artiste visuelle et performeuse suisse-canadienne, moitié du duo Peter Kernel, présente son 4e album solo, I See You Run. Écoute et interview par Jordan de Radio Méga.
C'était Holy Shit de Camilla Sparks, extrait de son 4e et nouvel album I See You Run, qui sort sur le label qu'elle a cofondé en 2006 avec son complice Harris Bassetti, on The Camper Records. Originaire du Canada, Barbara Lenoff, de son vrai nom, est basée en Suisse depuis de nombreuses années. Cinéaste indépendante, compositrice, musicienne et artiste de performance, elle est aussi connue pour être membre fondatrice du groupe post-punk Peter Kernel. Pour parler de son nouvel album I See You Run, que soutient la Ferrarock cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Lenoff. Donc, salut à toi et merci de m'accorder cette interview, Barbara.
Salut, merci à toi.
Alors, pour commencer cette interview, si tu le veux bien, j'aime bien demander à mes invités qu'ils ou qu'elles me prennent un petit temps pour nous parler du titre qui a ouvert l'interview. On vient d'écouter le morceau Holy Shit, le morceau qui ouvre I See You Run, ton nouvel album. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce morceau?
Alors, Holy Shit, c'est un peu, en fait, c'est un peu un intro pour l'album. L'album, c'est pour moi, c'était un parcours assez personnel parce que ça parle de mon père qui est décédé l'année dernière et c'était une maladie très longue. Il était dans l'hôpital. C'est pour ça qu'il s'appelle ICU Run. ICU, c'est le soins intensifs Et donc, mon papa était fermé dans l'hôpital et il essayait toujours d'échapper. Et les derniers mois où je l'ai vu, il me racontait chaque jour de ses plans pour échapper de l'hôpital. Il avait volé les clés. Il avait fait vraiment beaucoup de choses pour essayer de sortir. Et c'était assez difficile pour moi de voir ça parce que pour moi, mon père était vraiment mon exemple dans la vie d'une personne qui a vécu très librement. Oui, il était un très gros artiste de la vie et c'était très difficile pour moi, aussi pour ma famille, de le voir dans l'hôpital fermé. Donc, pour moi, l'album, c'était un peu pour faire sortir ces sentiments-là. Et Holy Shit, la première chanson, c'est vraiment, mon père il disait beaucoup de mots pas bien en anglais,
Gros mots, de gros
gros
mots.
mots. Et Holy Shit, c'était vraiment son pour chaque chose. Holy shit. Donc, c'était l'introduction plus évidente pour moi.
Ouais.
Et c'est une chanson avec beaucoup de dynamique. Il y a un très grand sidechain sur les guitares et sur les batteries quand il entre, que c'est une explosion qui te presse à tomber et puis ça ressort. Oui, donc c'est une introduction avec beaucoup de dynamique. Il y a beaucoup de sentiments, tu sais, des sentiments très graves, mais avec un peu de humeur. Oui, c'est beaucoup de contradictions.
Oui, mais justement, alors ce nouvel album, ce quatrième album, comme tu viens de le dire, c'est un album qui est très intime. Il est présenté sur tous les documents qui l'accompagnent là pour la presse comme le plus ambitieux et celui qui est sûrement où il y a le moins de compromis. Il est question de la perte de ton papa, comme tu viens de le dire, et puis du chemin qui a mené comme ça jusqu'à sa disparition. C'est un disque qui, je trouve, est pas si triste. Il appelle beaucoup à la danse. Il y a beaucoup de rythmiques très techno, très entraînantes, super hypnotiques parfois.
Oui.
Et bon, tu viens déjà un peu de le dire, mais est-ce que c'était pour toi une manière d'exorciser cette épreuve de la vie?
Donc, c'est sûr qu'au fond, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de joie. Tu ne peux pas juste rappeler les moments de tristesse. Et aussi dans le parcours, les derniers mois avec mon père, pour moi, c'était important aussi de voir le côté un peu, pas drôle, mais un peu comique de son personnalité si libre de vivre le fin de la vie, non? Et oui, donc c'est pour ça que ça va pas être un album triste pour moi. C'est important pour moi de pas vivre que la tristesse, quoi.
Bien sûr, et c'était une manière de rendre hommage à ton papa. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez original, d'après ce que tu dis.
Oui, il était vraiment un fou. Je suis grandi en Canada. Il est allemand, originaire, mais il est allé en Canada dans les années 70. Et il n'était pas vraiment un hippie, mais il était un peu naturaliste. Et il a fait le tourisme avec la chasse aux mousses, je sais, aux caribous,
Ah oui.
et la pêche. Alors, on avait des petites maisons au nord-nord du Canada où on allait avec les avions sur l'eau, hydrovolants, on dit ça?
Des hydravions.
Hydravions. Et oui, c'était une enfance assez fou, beaucoup d'aventures et un peu n'importe quoi. Il n'y avait pas beaucoup de lois. Alors, oui, c'était vraiment un esprit très libre. En fait, quand je suis retournée à vivre en Suisse, en Europe, il comprenait pas. Il m'a dit, ah, je suis échappée de l'Europe parce qu'il y a trop de lois, trop de règles. Et maintenant, tu retournes là. Et quand il venait à me trouver ici en Suisse, on allait à acheter le lait, les œufs, et il voulait pas payer à la caisse. Il disait, non, mais je ne vais pas payer 4 francs pour le lait. Je vous donne 1 franc. Tu sais, c'est comme ça.
Il avait fait un autre esprit
Super
libre et c'est le tien.
oui. Oui, je crois.
Si tu veux, on peut parler de musique, puisque ton setup, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui ont peut-être pas décortiqué tous tes instruments, ton setup, il est composé de synthétiseurs, d'un micro pour ta voix, et puis de dub plates. J'aimerais bien qu'on parle des dub plates, parce que c'est un peu original de les utiliser. C'est plus si souvent qu'on les voit, je trouve, en tout cas.
Pour moi, quand j'ai commencé à faire Camera Sparks, c'était difficile pour moi d'entrer à faire un projet électronique parce que j'arrive vraiment du post-rock avec Peter Kernan. Tu sais, on joue guitare, basse et batterie sur scène. C'est très physique. Et ça me manquait vraiment le côté physique du performance, de jouer quelque chose sur scène. Et normalement, c'est toujours avec des ordinateurs ou des samplers ou quoi. Mais oui, j'ai trouvé la façon d'imprimer mes samples sur des plates, sur des vinyles. Et donc, je joue deux platines que j'envoie les samples de platines dans des effets et je crée des loops avec ça. Et pour moi, c'est beau parce que je peux utiliser les platines comme des guitares. Tu sais, je peux faire des trémolos ou des bruits. Et c'est très physique, c'est une façon de rendre physique la musique électronique pour moi. Et en fait, c'est un peu la technique qu'il utilisait dans la musique dub. C'est pas que j'ai inventé ça. C'est
Bien
juste
sûr.
que peut-être dans ma genre de musique, on voit pas ça souvent.
Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, on le voit surtout dans le milieu dub, effectivement. On arrive au milieu de l'interview. Il est temps d'écouter un nouveau morceau. C'est le morceau Amamitu, featuring Francesco Bianconi. C'est le seul morceau de l'album qui a un featuring. Qu'est-ce qui t'a amené à ce featuring? Raconte-nous l'histoire de ce morceau.
Alors, en fait, ce morceau, originellement, j'ai enregistré avec les voix avec un gros pitch pour faire une voix. Je voulais avoir une voix très, très gros
Grave,
en
ouais.
bas. Mais puis, quand j'ai écrit le texte, c'était vraiment je t'aime moi non plus, quoi. Il y avait un discours. Alors j'ai pensé, ah, ça serait cool de demander à quelqu'un de faire la deuxième voix, en fait. Ça fonctionne mieux comme ça. Et j'ai pensé à Francesco parce qu'il est vraiment, il a un groupe en Italie qui s'appelle Baustelle. C'était un des premiers groupes que j'ai découvert quand je suis arrivée ici à 18 ans. Et c'était un de mes groupes préférés italiens. Et je savais que Francesco, il est un grand fan de Peter Kernel. Alors j'ai pensé, bon, peut-être si je dis, ah, je suis la bassiste de Peter Kernel, c'est mon premier soliste. Et il a dit tout de suite oui. Mais du coup, alors j'ai écrit la chanson en italien. Et puis il a écrit aussi, il a ajouté beaucoup de lyrics. Et c'est super, j'aime bien ce qu'il a écrit, mais il écrit très, il est vraiment un poète en italien. Alors, pour moi, c'est encore difficile maintenant d'apprendre à faire le morceau live parce que c'est un italien d'un autre niveau de mon italien. Mais bon, c'est beau pour moi aussi. C'est la première fois que je chante une chanson en italien, donc c'est cool, je crois. Ouais.
Bon, on l'écoute tout de suite alors avec Francesco Bianconi, et si on te voit en live, on t'entendra toi la chanter alors.
Oui.
Che ci sono senza dirti mai ti amo e ci spingiamo. senti, mi piace proprio come ridi quando baci, mi piace come ti abbandoni quando scopi, e tuo mondo come noi non conosciamo, ce ne facciamo.
Ti amo.
C'était Amami Too featuring Francesco Bianconi, extrait de l'album I See You Run de Camilla Sparks, que la Ferra Rock soutient cette semaine. Je suis toujours en compagnie de Barbara pour parler de ce nouveau disque. Je te propose, Barbara, si tu le veux bien, de parler imagerie et esthétique, puisque de manière générale, tu travailles beaucoup les aspects esthétiques qui gravitent autour de tes projets musicaux. Pour Lullabies, par exemple, ton précédent album, tu as proposé un disque vinyle complètement fou avec des images animées et puis un miroir au milieu. Tu
fais c'était vraiment un album audiovisuel.
Ouais, c'était magnifique.
Fait, le côté visuel et puis après la musique. Mais pour cet album, pour I See You Run, j'ai pensé de ne pas faire de vidéoclip pour les chansons, mais plutôt j'ai fait un short movie avec tout l'album dedans. J'ai pas encore fini de faire le editing de ça, mais j'ai fait sortir quelques morceaux du film. C'est un univers très comment on dit renegade, je sais pas comment on dit
ah,
ça.
Ah, renegade, ouais, renégat.
Où il y a beaucoup de personnages différents. Et il y a beaucoup de costumes, c'est très presque fantastique. Et ça parle beaucoup d'échapper et de. Oui, d'échapper de quelque chose qu'en fait tu es en train de. Comment on dit? Chasing.
Oh, tu poursuis?
Exactement, tu échappes de même chose que tu es en train de poursuivre.
Oui.
Donc, c'est un peu un Lola Rent comme histoire entière. Mais oui, c'est. Et puis, oui, il y a tout un dialogue avec les traumas intérieurs, on dit ça. J'ai construit une marionnette. Donc, dans le film, il n'y a que deux personnages, Camilla Sparks, moi, et cette marionnette. Et le marionnette, c'est un peu mes traumas qui me suivent et c'est pas clair s'il me aide ou s'il s'il est méchant ou s'il est
Mmh.
bon, tu sais. Oui, et j'espère de faire sortir ça en novembre, décembre, le film entier.
Il y a une grosse tournée qui est en cours. T'as tourné un peu cet été. Tu vas continuer à tourner à l'automne. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe et peut-être donner des
Oui.
rendez-vous pour les Français et les Françaises là pour l'automne parce que tu vas venir?
Alors, j'ai joué là, ça fait quelques semaines, à la Route du Rock.
Oui.
Et c'était super, c'était la deuxième fois que j'ai essayé le nouveau set live. Et c'est vraiment cool, je suis vraiment contente de cette live. C'est très intense. Oui, j'ai une intention très claire sur ce que je suis en train de communiquer. Et oui.
Et donc, tu vas venir jouer en France cet automne?
Oui, alors le 22 octobre à Dunkerque, le 23 à Paris au Hasard Ludique et le 24 octobre à Lyon et le 15 novembre à Dijon. Et puis c'est tout pour la France. Puis je vais
Ouais.
tourner en Italie, en Suisse, en Allemagne.
Merci beaucoup pour toutes ces dates. On arrive à la fin de l'interview, Barbara. Merci beaucoup. Je rappelle que la Ferrarock soutient la sortie de ton nouvel album de Camilla Sparks, donc, qui s'appelle I See You Run. Et il vient tout juste de sortir sur ton propre label, On the Camper Records. Au revoir et merci encore, Barbara.
Merci à vous. Au revoir.
La rentrée est nostalgique avec School qui nous plonge dans l'âge d'or des années 90 avec l'album I Think My Life Has Been Okay. Ce disque est certes le premier opus du groupe School, mais ils ont tous et toutes déjà bien roulé leur bosse dans plusieurs autres formations.
Pour l'émission Dig Dig Diggers, cette semaine, nous découvrons les Parisiens de School, idéal pour la rentrée de septembre. Il s'agit d'un super groupe formé par Erika Asherson de Special Friend et Doc Park à la basse, Jack Moase de Liquid Face à la guitare, Alex Batez de Marble Arch à la batterie et enfin de Francis Mallary de Rendez-vous que nous avons en interview aujourd'hui. Bonjour.
Hello.
Alors, School, c'est un projet auquel vous avez commencé à réfléchir il y a déjà 10 ans. Comment c'est né?
On n'y a pas vraiment réfléchi il y a 10 ans. J'ai rencontré Alex il y a 10 ans où on était en tournée ensemble. Lui jouait dans Splash Wave et moi dans Rendez-vous. Et on a fait notre première tournée ensemble en Europe, enfin plus Allemagne et Pays-Bas. Et on s'est vachement liés d'amitié à ce moment-là. Et on s'est toujours dit oui. Ça serait cool de faire un groupe ensemble et nous voilà pratiquement 10 ans après.
Donc après 10 ans, vous vous êtes donc retrouvés pour travailler un petit peu ensemble. Vous êtes un peu un super groupe, hein, comme je disais en introduction, parce que vous êtes tous dans d'autres formations différentes. Ça vous apporte quoi de jouer ensemble comme ça?
Retrouver le plaisir de faire du son sans prise de tête, en fait. C'était surtout ça le leitmotiv à la base du groupe. On est juste une bande de potes qui faisons du son un peu pour entre guillemets rigoler, quoi. C'est chacun nos side projects, en fait.
J'ai lu que vous aviez l'envie de faire un groupe que vous auriez voulu avoir ado. Qu'est-ce que
Oui,
ça
c'est vrai qu'on
signifie,
avait.
ça?
L'innocence, surtout. L'innocence, enfin, retrouver l'innocence de quand t'es ado, c'est quand tu fais tes premiers concerts, tout ça. C'était surtout retrouver cette essence-là, en fait.
Et il y a votre nom, School, aussi. Est-ce que c'est une référence à la chanson de Nirvana sortie sur Bleach en 89?
J'adore ce morceau, mais c'est ça et que le mot nous évoque aussi, quoi. Comme le premier clip qu'on a sorti, on fait une sorte de sortie un peu extrascolaire. On est plus des étudiants aujourd'hui, mais c'était juste retrouver cet esprit-là.
Et d'ailleurs, ça serait quoi ton top 3 des chansons de ton adolescence? Plaisir coupable compris.
Tiens, un morceau que j'adore, que j'ai découvert dans une vidéo de skate, la Foundation Hard Bars, et c'est un morceau de Swirlies, House of Pancake, et en fait, c'est un morceau remixé de leur morceau Pancake, en fait. Ça fait des années que je l'écoute en boucle sans me lasser, ce morceau. Et du coup, il y aurait ça, donc, Swirlies, House of Pancake. Ensuite, My Bloody Valentine, Pool of Lies. À choisir un morceau, c'est difficile, mais.
C'est très compliqué pour My Bloody Valentine de n'en choisir qu'un, je
En
suis d'accord.
plus. Ouais. Donc, tout Loveless. On va comprimer tout Loveless en un. Puis, allez, un petit plaisir coupable, Dido.
Ah ouais, laquelle de Dido?
Le son, qu'elle a fait avec Eminem.
J'ai un petit peu envie de rebondir sur justement les vidéos de skate. C'est un peu ça qui t'a fait ta culture musicale, tu dirais, le fait
Ouais,
d'être passionné de skate?
en fait, dans les vidéos de skate, t'as des parts, on appelle ça des parts. Chaque skater a une part, en fait, et chaque part a sa musique. Du coup, ouais, quand t'es gamin, tu t'identifies vachement à tes skateurs préférés, la musique qu'il a choisie et tout. Bah, pas mal de skateurs, je pense, de ma génération, on s'est fait avec les VHS de skate, quoi. Notre culture musicale s'est faite avec les VHS de skate.
Et il y a tout l'esthétique aussi qu'il y a autour du
Et toute
skate.
l'esthétique, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Même dans School, ça se ressent, hein, même dans nos posts sur Instagram, tout ça.
Bah, c'est là-dessus que j'allais venir justement.
Ouais.
C'est tout l'esthétique, notamment la pochette de votre album, qui a
Ouais.
été fait par un artiste. Tu
Ouais,
peux peut-être en
Xavier.
parler un petit peu?
Bah en fait, on voulait. Enfin, c'est surtout moi et Xavier qui avons élaboré cette pochette. Moi, j'avais une idée de patchwork en fait, de plusieurs photos qui me voguent justement cette période de ma vie en fait. Et du coup, on voit un rail. Un rail, c'est une rambarde d'escalier, ce qui justement peut s'affilier au skateboard. Enfin, c'est des photos que j'ai prises aux États-Unis, un peu random. Et voilà, je voulais. J'ai dit à Xavier, le graphiste, d'élaborer quelque chose avec ça.
Je trouve ça très joli. En tout cas, ça donne
Yep.
envie d'aller écouter. L'album s'appelle I Think My Life Have Been Okay. Pourquoi être parti sur ce nom?
Ben, c'est un peu le mood général. Enfin, c'est tiré du morceau qui vient de sortir, OK. Et en fait, c'est un peu le mood général de l'album. C'est très mélancolique, mais on veut quand même une pointe d'espoir, quoi. C'est peut-être pas si mélancolique, mais en tout cas, il y a des morceaux comme Dizien qui est vachement plus pop un peu que par rapport aux autres, mais toutes les paroles, en tout cas, sont beaucoup plus mélancoliques que la musique, limite.
On va peut-être un petit peu évoquer aussi la manière dont vous avez pu travailler,
Ouais.
comment vous avez composé les chansons tous ensemble.
Principalement moi au début, bah, je suis un peu l'instigateur du projet, du coup j'ai fait pas mal de maquettes chez moi, tout seul. Après, je leur envoie, ils me proposent leurs idées, et on marche comme ça, quoi. Et après, quand ils sont à Paris, on enregistre certaines batteries, certaines basses, quoi. Erika est à Paris, donc celle qui est à la basse. Et je peux écrire les parties de guitare de Jack.
En introduction, je vous ai défini comme étant un groupe parisien, mais c'est peut-être pas la manière dont vous vous définiriez, vous.
Bah ouais, il n'y a pas vraiment de vrai Paris, il n'y a pas de Parisien. Bah, Erika est l'américaine, Jack australien. Ouais, il y a un Berlinois et moi je suis du sud de la France. Il y a personne qui habite à Paris à part moi et Erika en fait. Bon, on s'est tous rencontrés à Paris.
Donc, dans ce sens-là, ça peut être un groupe parisien, quoi.
Oui, on peut être un groupe parisien dans ce sens-là. J'ai rencontré Jack, notre guitariste, au parc à chiens de Montmartre, donc ouais, à partir de là, on peut être un groupe parisien.
Ça, c'est une bonne anecdote quand même.
Oui, c'est vrai.
Ça s'est passé comment?
Bah, on se voyait tous les jours, on promenait nos chiens. Et puis pas mal d'affinités, pas mal de points communs. Et je commençais ce groupe et je dis, mais toi tu fais de la guitare dans ton groupe en Australie là, tu fais rien là en France, du coup bah viens faire de la guitare avec moi quoi.
C'est un peu comme les 101 dalmatiens, mais version musique.
C'est un peu ça peut-être, ouais.
I guess I'm ready. Do you want?
Et comment tu les composes, ces paroles?
Ça vient assez facilement. J'écris. Enfin, d'abord, je compose la musique. Et ensuite, sur mon téléphone, j'ai des notes, plein de phrases un peu random, un peu, que je note même quand je suis pas en train de créer. Et du coup, je pioche là-dedans. Ça vient assez facilement après. Je mets ça en mélodie et voilà. Ça fait la magie de la musique.
Il suffit d'une phrase pour que tout découle ensuite.
Ouais, bah, cette phrase, par exemple, qui est devenue le titre de l'album, c'est une note que j'avais dans mon téléphone et qui a terminé en chanson, quoi.
En tout cas, cet album sort le vendredi 5 septembre 2025 et vous êtes signé sur le label Géographie. Comment ça s'est fait cette rencontre?
Ah ben, Géographie, donc je connais Nico qui s'occupe du label depuis un bon moment. C'était le manager de notre groupe il y a un moment avec Rendez-vous. On a arrêté la collaboration avec Rendez-vous, mais il m'a toujours dit si tu sors un truc, ben, c'est un peu comme Alex, si tu fais un groupe tout seul, appelle-moi. Du coup, ben, pareil, ça s'est un peu fait comme ça.
En tout cas, c'est un album que vous allez défendre en live à la Boule Noire à Paris
Ouais.
le 24 septembre prochain. Qu'est-ce qu'on va
On fait quelques
pouvoir...
dates aussi avant. Et aussi le Havre, Amiens et à Tours.
Donc vous allez être bien échauffé pour
Ouais, c'est ça, c'est des dates
votre sortie
d'échauffement, ouais.
d'album.
Ouais, carrément.
Et à quoi ça ressemble en live, School?
On a fait que deux lives tous ensemble l'année dernière. Et ben, ça ressemble à un groupe à guitare. Hein.
Quelle énergie vous donnez sur scène?
C'est un peu plus énergique qu'en disque, je dirais. Même avec les effets de lumière et tout, il y a beaucoup plus de strobes et t'es plus énergique, ouais.
Vous allez jouer à la Boule Noire à Paris pour la sortie de l'album, donc le 24 septembre, et vous partagez l'affiche avec un autre groupe de shoegaze de Bordeaux, Clarence,
Ouais.
que moi j'écoute pas mal depuis quelques temps. Comment ça s'est fait cette rencontre?
Je crois qu'on les a juste contactés par Instagram. Enfin, c'est via Nico, notre label man. Moi, j'avais déjà écouté un peu, ouais. Je m'étais dit, ouais, ça serait peut-être pas mal de les faire jouer, comme on aime beaucoup leur musique. Du coup, je crois que ça s'est juste fait par message Insta. Hein. Et ils ont dit oui.
J'ai
Donc,
l'impression qu'il
j'étais
y
content.
a une forme de simplicité, vraiment de retour aux sources qui sort vraiment de ce groupe
Ouais,
School.
bah, c'est pour ça qu'on a ce projet aussi. C'est vraiment de faire le truc le plus simple possible et de nous faire plaisir. En fait, j'avais aussi ça, pas un ras-le-bol, mais... avec mon autre groupe, mon groupe principal Rendez-vous, où chaque décision était un bras de fer, en fait. C'était devenu hyper sérieux. Et mais enfin en bien un bras de fer, hein, parce que chacun veut arriver au meilleur du projet, en fait. Mais c'est vrai que ça devient très lourd au bout d'un moment, quoi, à porter sur ses épaules. Donc du coup, j'avais besoin peut-être un peu de légèreté avec School. Tout est archi simple en vrai avec ce projet.
Donc on revient vraiment au basique et pas seulement au lycée, mais
Ouais,
juste
ouais.
au basique de pourquoi on fait de la musique et pourquoi on aime en
Exactement, ouais.
faire.
Exactement, ouais.
Bah merci beaucoup Francis Malary. On rappelle que tu fais
Yes.
partie du groupe School, mais également du groupe Rendez-vous et que votre nouvel album I Think My Life Have Been Okay sort le vendredi 5 septembre 2025 et qu'on peut se le procurer eh bien chez tout bon disquaire et puis via votre Bandcamp également.
Ouais, c'est ça. Ben, merci à toi.
Thank you.
Distorsion, fuzz et reverb sont au rendez-vous dans le projet de l'artiste Nayamo. Nous l'avons découverte au festival Hop 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 il y a quelques jours et Julie de la radio Bob FM s'est entretenue avec elle juste avant son showcase.
Aujourd'hui, on reçoit Nayamo. Bonjour Naya, comment ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Ben oui, ça va, merci. Donc, t'es une artiste émergente de la scène indie française. Et aujourd'hui, on va parler création artistique et parcours, univers musical, tout ce qui tourne autour de ta musique.
Okay.
Merci d'être là, d'abord.
Merci à toi.
Et donc, dans ton univers musical, il y a à la fois du rock, de l'indie et beaucoup de textures sonores. C'est ce qui m'est venu naturellement quand j'ai écouté ta musique.
Ouais.
Est-ce que ça t'est venu naturellement d'amener toutes tes textures, ou est-ce que t'as cherché à construire ce mélange? Comment ça s'est passé en fait?
Le premier EP que j'ai enregistré en début d'année dernière, je l'ai enregistré avec un artiste qui s'appelle Barty Strange et on a travaillé ça ensemble. Moi de base, je fais toutes mes chansons dans mon Attic Studio. Qui est équipé pour et tout ça. Après, je suis allée à Baltimore, aux États-Unis, et on a fini l'enregistrement là-bas, et on a travaillé sur les textures, comme tu dis, on a beaucoup changé le pedalboard, on a essayé de trouver les bonnes fonctions, on a passé des heures dessus toute la nuit à trouver. Et c'est venu de là, en fait, de la collaboration aussi avec Barty's, et aussi de la musique que j'écoute depuis toujours, et mes parents qui ont un groupe avec lequel ils ont beaucoup tourné, qui m'ont aussi apporté ça. Et
c'est un peu une histoire de famille aussi.
Exactement, ouais. Okay.
Est-ce que c'est donc, du coup, t'as une idée, un son, et ensuite tu mets tes textes dessus?
Ouais.
Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse?
Non, c'est souvent ça. C'est souvent, l'idée va venir surtout de l'ambiance de ce que je vais trouver, des textures ou de la mélodie d'abord et ensuite les paroles. C'est pas très instinctif pour moi, souvent, les paroles. Enfin, ça dépend des chansons, mais c'est souvent la musique qui l'est beaucoup plus. Donc ça commence souvent comme ça.
Donc t'as des titres qui parlent beaucoup de fantômes, des fantômes qui te hantent. Tu dis que la musique ça devient plus naturellement. C'est bizarre parce que moi si je pense à des choses que je ressens, je vais directement les mettre sur papier. Et toi tu passes plutôt par la musique. Tu te ressens plus proche des sons que des paroles.
Complètement, de la musique ça a toujours été comme ça en fait. Même quand j'étais plus jeune, quand j'écoutais de la musique souvent anglo-saxonne, donc du coup je comprenais pas forcément tout le temps les paroles, surtout quand j'étais très jeune. Et c'est souvent les mélodies qui me touchaient plus que les paroles parce que je comprenais pas forcément. Donc c'est, ça vient surtout de là, je pense.
T'as une chanson d'ailleurs qui, c'est Outsider, si je dis pas de bêtises, qui commence un peu justement par parler du yaourt qui arrive avant les paroles. Cette chanson c'était justement pour faire ressentir un peu ce mélange bizarre que t'entends.
Oui, pas aussi se donner de limites, quoi, d'être un peu hyper créatif, ne pas se le donner de limites avant la création. Donc c'est parti de là.
Donc moi j'ai écouté toutes tes chansons avant de faire l'interview là. Et j'ai trouvé qu'il y avait un sentiment un peu dilué, diffus, qui se dégageait de tes titres. C'est peut-être ce que tu essayes de faire, ou en tout cas... Enfin, moi, ça m'a fait un peu l'effet comme une Madeleine de Proust, en fait. Genre un retour à l'enfance. Pas forcément de l'innocence, parce qu'il y a un peu d'angoisse, des fantômes, etc. Un peu comme une Madeleine de Proust, mais collective. Est-ce que c'est ce que tu cherches à transmettre dans ton projet artistique?
Oui, parce qu'en fait, il y a à la fois... moi, j'ai commencé en guitare-voix, donc il y a ce côté très intimiste. Plus, parce que je définis ma musique comme emotional noise rock ou emotional rock indie. Enfin, du coup, il y a ce côté émo quand même de base ou intimiste. Et après, j'ajoute des textures. En fait, je pense que si quand tu parles peut-être ce côté enfance ou quoi, c'est peut-être lié à ma voix ou à l'effet de ce côté un peu intimiste. Et après, j'ajoute des textures, j'ajoute tout ce son, ces guitares et tout. Donc, je pense que ça vient de là. Donc après, c'est fait inconsciemment aussi. Ça vient comme ça, mais...
Tes titres, ils sont souvent rythmés par, donc je viens de le dire, des impressions de retour en enfance. Est-ce que c'est pas aussi un peu un moyen de sortir du temps pour aller se nicher à un endroit un peu plus paisible et de peut-être aussi fuir une actualité un peu anxiogène en ce moment?
Oui, d'ailleurs j'ai une nouvelle chanson qui n'est pas encore sortie que je vais jouer là, qui s'appelle High Anxiety, qui justement du coup un peu différent de l'EP que j'ai sorti, qui parle vraiment de l'actualité d'aujourd'hui, et c'était pour moi aussi hyper bien de le jouer sur scène avant de le sortir pour pouvoir enlever toute l'anxiété du corps comme ça avec toutes les actualités qui arrivent en ce moment. Donc oui, c'est vrai que ça peut être une sorte de cocon. Quand j'écris aussi, c'est comme ça. C'est un peu pour... j'écris dans mon grenier, dans mon studio. Donc, je suis en reclus. Enfin, je suis vraiment toute seule. Donc, ça peut se ressentir aussi avec les chansons parce que j'écris seule en général. Donc,
Et c'est une forme d'engagement, du coup, que tu développes par la musique. Est-ce que ça te fait... est-ce que c'est bizarre de passer justement de ton grenier à la scène et de dévoiler comme ça ton engagement
Après, la scène, j'en fais depuis que je suis super jeune. J'avais un autre projet avant et j'ai fait beaucoup de scènes. Et du coup, la scène, c'est... À la fois, ça, comme tu dis, il y a ce passage du grenier à la scène devant tout le monde. Mais en réalité, pour moi, c'est comme un cocon aussi. Je m'y retrouve hyper bien et c'est là où je peux vraiment m'exprimer pleinement. Et ça a toujours été comme ça. J'adore la scène et voilà.
T'as pas des angoisses en plus
Non, au contraire, je pense que c'est thérapeutique.
Donc ton projet, t'en parles, ça fait longtemps que t'es dedans. Est-ce que c'est encore en construction? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que tes titres, ils forment une histoire globale? Comment ça se construit en fait?
Je l'écris au fur et à mesure, je pense. Que je suis encore, au moment où je te parle, en train d'essayer de voir la suite. En fait, j'écris au fur et à mesure. Donc oui, ça c'est sûr. Je suis en train d'ailleurs d'avoir des idées par rapport... je vais sortir un deuxième EP avec des clins d'œil au premier, etc. Donc je crée cette histoire, je crée une continuité, une histoire,
Et tu parlais de Baltimore tout à l'heure. J'ai lu dans une de tes interviews précédentes que tu avais produit un morceau toute seule, Dealing with Ghosts. Est-ce que ça c'était avant Baltimore ou après?
C'était après... J'avais l'idée avant d'aller à Baltimore et en fait, je voulais vraiment une chanson sur l'EP que je fais toute seule. J'ai mixé aussi la chanson toute seule. Donc, c'était aussi un challenge pour moi.
C'était apporter une expérience différente. Enfin, ça fait quoi de produire un morceau?
Oui, c'est une liberté de dingue. C'est pour ça que je pense renouveler l'expérience pour le deuxième EP, même peut-être faire toute seule.
Ok.
Je m'aide de. Il y a certains amis qui m'aident pour certaines batteries ou choses comme ça, mais je mixe toute seule et j'aime bien cette liberté là. Ouais.
T'as une autre chanson qui un peu réfère aussi à la solitude, Outsider.
Toujours là.
Voilà. du sentiment d'être en marge, de pas forcément trouver sa place. Ouais. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui t'est inhérent et que tu saurais pas forcément expliquer, ou est-ce que
ça je pense que ça vient plus de mon expérience aussi dans l'industrie de la musique ou même dans ma vie en général, parce que j'ai suivi l'école aussi à la maison. J'ai tourné quand j'étais très jeune, donc du coup c'est vrai que j'étais un peu, je côtoyais pas beaucoup de gens de mon âge, j'étais souvent aussi partie sur la route, donc je pense que c'est né de là en fait. J'ai vraiment envie d'une chanson et je suis partie d'ailleurs de ces paroles: all this time I was looking for my place. C'est vraiment ça, c'est de, j'avais pas trop trouvé ma place dans tout ça et c'est parti de là en fait.
Et tu parlais de ton rapport à l'industrie musicale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça?
Écoute, j'ai signé quand j'avais 16 ans.
Ouais.
Donc, c'est vrai que j'étais très jeune. Et malgré tout, j'ai pu tenir exactement ce que je voulais, contrairement à des fois ce qu'on peut dire où les maisons de disques vont avoir le contrôle ou quoi. C'est vrai que moi, je savais tellement ce que je voulais que j'ai su quand même m'imposer face à tout ça, même si ce n'était pas tous les jours facile. J'ai décidé en fait de quitter la maison de disques pour créer mon propre label quelques années plus tard. Et je pense que ça a été la meilleure décision aussi d'être en indépendante totale, pour avoir aussi le contrôle sur tout, pas que sur l'artistique. Ça, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, je me sens tellement libre aussi face à mes sorties ou comment je développe mon projet. C'est tellement plus facile aussi. Donc t'as pas besoin d'avoir aussi l'approbation de plein de gens. C'est souvent ça quand t'es signé. Enfin, ça dépend... de ton équipe, mais c'est souvent comme ça.
C'est important de rester maître de ton projet artistique.
Oui, mais vraiment, et c'est le cas. Donc.
Et après cette EP, comment tu vois la suite? Est-ce que t'imagines un nouvel album, ça tu l'as dit, des nouvelles collaborations peut-être plus poussées dans certains sens ou dans certains univers?
Oui, carrément, surtout sur le côté plus alternatif, même... j'aimerais trop il y a des collaborations qui arrivent, je peux pas trop pour l'instant vraiment en parler, mais il y a des collaborations vraiment... Je suis tellement fière de ces collaborations incroyables qui arrivent, surtout sur le deuxième EP. Je vais essayer de pousser au maximum tout ça.
Est-ce qu'il y a des directions que tu n'as pas encore explorées et que tu aimerais... Bon, ça rejoint un peu la question que je viens de poser. Mais par exemple, dans la langue, donc, tu chantais beaucoup en anglais et tu as fait un retour au français. Pourquoi? C'était juste un retour aux sources, quelque sorte.
Oui, moi j'ai toujours écouté beaucoup de musique anglo-saxonne, mais c'est vrai qu'en fait le français, je l'ai découvert sous un autre angle où en fait j'adore aussi chanter en français, donc peut-être aussi faire un album ou un EP en français, qui sait. J'ai plein de chansons en français aussi, donc on verra.
Petite dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que, donc tu parlais que tu avais une formation un petit peu plus conventionnelle au conservatoire, et ensuite là tu as des démarches plus autodidactes, alternatives, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce changement que tu as eu, peut-être les différences que tu as vues entre le monde du conservatoire et maintenant que tu es autodidacte?
Le conservatoire, c'est vrai que c'était assez contraignant pour moi, il y avait une forme de, c'était très rigide, en tout cas mon expérience était comme ça. Et c'est vrai que c'était pas très ouvert à différents styles musicaux. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai continué en fait en autodidacte et j'ai appris la guitare de manière autodidacte. Donc voilà, en fait, ça s'est fait assez naturellement où j'ai voulu vraiment après prendre être libre et pouvoir faire ce que je voulais et arrêter le conservatoire. J'ai fait quand même 4 ans de conservatoire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Stays the same when it rains, we rest. and we get stuck in place. When we speak, we get lost, falling on deaf ears. We all learn to talk, none of us still hear.
Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. À l'instant, l'interview de Nayamo qui a sorti son premier EP en février 2025, Dealing with Ghosts. Nous vous présentions également les deux albums découvertes que vous avez dû entendre tout au long de cette semaine sur votre radio Ferrarock. Il s'agit de l'album I See You Run par Camilla Sparks, sorti le 12 septembre via On The Camper Records, ainsi que I Think My Life Has Been Okay par School, sorti le 5 septembre sur le label Geography. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les albums et festivals soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.